Je suis fan de foot, je m'attendais vraiment à voir une animation spéciale en ville, du monde, des supporters. Et il n'y a rien du tout, c'est mort, c'est vide.
Pas la grosse ambiance à Lisbonne pour ce qui doit être une grande soirée de Ligue des Champions. Match à huis clos, pas de supporters. Et pourtant un enjeu énorme pour le Paris Saint-Germain. Travailler masqué ne fera pas de vous un super-héros, mais ça risque de vous arriver bientôt. Le port du masque obligatoire en permanence au bureau est à l'étude face au rebond de l'épidémie.
Il y a une inconnue concernant cette maladie et dans le doute, on doit absolument se protéger et protéger les autres.
Dans ce journal également, une femme métisse comme colistière pour Joe Biden aux États-Unis. Portrait de Kamala Harris, nouvelle candidate à la vice-présidence. Au-delà du coup de com' russe, où en est-on de la recherche d'un vaccin contre le coronavirus? La recrudescence des tirs de feux d'artifice contre des policiers. Plusieurs élus appellent à renforcer les sanctions pénales. Et puis on vous racontera l'histoire de cette conductrice qui a essayé de faire gober un gros mensonge aux gendarmes après un gros excès de vitesse.
Et puis l'invité politique, juste après le journal, le port du masque au travail, l'état de nos petites et moyennes entreprises, les enjeux du plan de relance. C'est un ministre au cœur des enjeux qui nous rejoint à 8h15. Alain Griset, ministre en charge des PME. Très bonne matinée, 8h01.
Au moins.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Au moins, il n'y aura pas de risque de remontada cette année. Covid oblige, les quarts de finale de Ligue des Champions se jouent sur un seul match. Mais cela renforce évidemment la pression pour la rencontre de ce soir entre le PSG et l'Atalanta Bergame. Kylian Mbappé sera sur le banc pour un match qui va se jouer dans une ambiance très particulière.
Alors, pas de supporters au stade à Lisbonne, c'est à huis clos. Et pas grand monde non plus d'ailleurs dans les rues de la capitale portugaise. Julien Froment.
À Lisbonne, le Final 8 de la Ligue des Champions se joue avec peu d'images et sans le son. Malgré la présence des 16 meilleures équipes d'Europe, dans les rues, pas d'effervescence, quasiment aucun drapeau à l'effigie de la compétition. Quant aux supporters, ils se comptent sur les doigts de la main. David, habitué de la capitale portugaise, regrette cette ambiance.
Je suis fan de foot, je m'attendais vraiment à voir une animation spéciale en ville, du monde, des supporters. Et il n'y a rien du tout, c'est mort, c'est vide. J'ai vu un drapeau de la Ligue des Champions sur la place à côté. Et sinon, j'ai rien vu d'autre, c'est hyper décevant.
Mathias, lui, est restaurateur. En temps normal, il faut réserver pour manger dans son établissement. Là, les tables sont quasiment toutes vides.
Les gens ont peur de venir, que ce soit les Français ou les Anglais. Moi, ça fait 7 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vois ça. C'est pas bon pour les gens, c'est pas bon pour le business. Il faut attendre, malheureusement.
D'ailleurs, ce Final 8 et ses 7 rencontres ne devraient rapporter que 50 millions d'euros à la ville, soit autant que pour un seul match. C'était la finale de l'édition 2014, ici même. Lisbonne, Julien Froment, Europe 1.
Ouais, Julien Froment qui nous fera vivre depuis Lisbonne ce match en direct et en intégralité, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h autour de Lionel Rousseau.
Des matchs à huis clos dans les stades et bientôt peut-être le masque en permanence au bureau en France. Ce n'est pas encore gravé dans le marbre, mais le gouvernement y réfléchit devant la remontée de l'épidémie qui s'accélère. Le seuil de vigilance, c'est-à-dire 20 cas pour 100 000 habitants, ce seuil sera dépassé cette semaine. Et outre le renforcement annoncé des contrôles dans les rues, dans les restaurants. Cette mesure en entreprise est la bonne à prendre, estime de nombreux médecins comme l'épidémiologiste Martin Blachier.
Si on veut faire une mesure qui fonctionne et qui va avoir un vrai impact sur les courbes épidémiques, c'est celle-là. C'est le port du masque en entreprise obligatoire, même si la distanciation physique est respectée, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a l'aérosolisation et que donc quelqu'un qui est loin peut avoir des aérosols qui vont aller jusqu'à lui, et même avec la distanciation physique. Donc c'est cette mesure qu'il faut travailler, il faut la travailler en particulier pour la rentrée. Quand les gens vont retourner au travail et qu'ils vont se rebrasser dans des univers professionnels, dans des open space, dans des salles de réunion, c'est là qu'est le vrai risque et c'est là qu'il doit se faire le travail. Il faut accompagner les chefs d'entreprise et les DRH. Et septembre, c'est dans 3 semaines. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut se pencher absolument.
Le docteur Martin Blachier à votre micro, Sébastien Krebs, tout à l'heure à 6h40. Alors est-ce qu'on est prêt collectivement à s'y plier? Est-ce que ça va relancer aussi la question du télétravail? Élise Dangean vous a posé la question.
S'il faut, faudra bien. On le porte déjà beaucoup dehors maintenant. On est quasiment obligé de le porter dehors, donc on le fera.
Porter un masque au travail du matin jusqu'au soir, y compris lorsqu'on est à son bureau, éloigné de plus d'un mètre de ses collègues, l'idée n'enchante pas Julien, qui a déjà prévu, si la mesure est appliquée, de rester le plus possible en télétravail.
Toute la journée au bureau, honnêtement, derrière son ordinateur avec un masque, contenter d'être chez soi, quoi.
Mais pour ça, encore faut-il que le télétravail soit possible et autorisé, sinon il faudra se plier aux règles. Sylvie, elle, s'est déjà fait une raison.
Ça me semble une bonne idée, dans la mesure où il y a une inconnue concernant cette maladie, et dans le doute, je pense que voilà, on doit absolument se protéger et protéger les autres.
En tout cas, cette mesure aura un coût que certains salariés, comme Adrien, sont prêts à assumer.
Le plus important, c'est quand même la santé. Du coup, moi, je serais prêt à mettre les euros qu'il faut pour les masques.
De leur côté, les entreprises doivent en tout cas se tenir prêtes. Le gouvernement leur a demandé à plusieurs reprises de se constituer un stock préventif de masques d'au moins 10 semaines pour tous leurs salariés.
Et à l'instant, la capitale belge, Bruxelles, annonce rendre obligatoire le port du masque dans ses rues, annonce des autorités régionales.
Europe 1, 8h06.
Est-ce un gros coup de com' ou une vraie percée? Les réactions sont pour le moins sceptiques à travers le monde après l'annonce par Vladimir Poutine lui-même d'un possible vaccin russe contre le coronavirus.
L'OMS rappelle qu'il y a des protocoles précis pour l'homologation et que les tests effectués par Moscou ne s'y sont pas encore pliés. Mais au-delà de la Russie, Diane Berger, où en est-on? On compte en tout 28 candidats sérieux.
Oui, la bataille planétaire fait rage. 6 projets sont en phase 3, la plus avancée, celle où l'efficacité du vaccin est testée sur plusieurs milliers de volontaires. Il s'agit de 3 initiatives chinoises et 3 occidentales, une britannique, une autre aux États-Unis et une collaboration germano-américaine. Ces 3 projets font partie de ceux soutenus par Washington, qui leur a déjà versé plus de 9 milliards de dollars. En phase 2, l'étape où l'on commence à mesurer l'efficacité du vaccin, on retrouve d'autres laboratoires chinois. Et en phase 1, celle où les laboratoires évaluent encore la potentielle dangerosité du produit développé, on compte l'Institut Pasteur, mais surtout le vaccin russe Sputnik V, présenté officiellement par Vladimir Poutine comme le premier au monde contre le Covid-19. Quant au vaccin de Sanofi, au cœur d'importantes tractations avec le gouvernement ces derniers mois, il n'est pas suffisamment avancé, selon l'OMS, pour faire partie des candidats les plus sérieux.
Un tour d'horizon signé Diane Berger.
États-Unis, c'est un choix historique pour la présidentielle de novembre. Le candidat démocrate Joe Biden désigne comme colistière la sénatrice Kamala Harris.
Une femme, c'est une première. Métisse et issue de l'immigration, c'est un signe envoyé aux militants antiracistes. Voilà pour les deux symboles. Mais Kamala Harris est surtout une femme de loi, ancienne procureure générale de Californie. Son portrait, signé Benoît Clerc.
Née d'une mère indienne chercheuse en cancérologie, aujourd'hui décédée, et d'un père jamaïcain, prof d'économie, elle est la première femme noire originaire d'Asie du Sud à intégrer une présidentielle dans un ticket démocrate. Pour Joe Biden, cette juriste de 55 ans est précieuse car elle coche toutes les cases nécessaires. Elle est loyale mais ferme, et on se souvient de leur passe d'armes lors du débat des candidats à l'investiture démocrate. Kamala Harris a gagné toutes les élections en Californie, qui est le plus gros vivier de donateurs et d'électeurs démocrates, et elle a conquis le Sénat à Washington le même jour que Trump était élu président. On la connaît charismatique, passionnée, mais ambitieuse aussi. Les sondages prédisent déjà que 90% des femmes noires voteront pour elle le 3 novembre prochain. Joe Biden, qui a 10 points d'avance sur le locataire de la Maison-Blanche dans tous les états clés, aura lui 78 ans en janvier. Il reste 83 jours à leur tandem pour convaincre l'Amérique. S'ils réussissent, nul ne doute aujourd'hui ici que Kamala Harris sera la première femme noire présidente en 2024. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
L'Association française des victimes du terrorisme annonce qu'elle va porter plainte après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos des corps des humanitaires d'Acted tués au Niger. Paris prépare leur rapatriement et un hommage est à l'étude. Une minute de silence observée hier soir à Beyrouth, une semaine tout juste après l'explosion. Les noms des 171 victimes ont été égrenés à 18h07, précise heure de la déflagration.
Il est 8h09, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
Un retour en France et des violences qui émaillent les quartiers. C'est un phénomène, semble-t-il, en forte hausse depuis le déconfinement. Le nombre de tirs, de mortiers ou de feux d'artifice en direction des forces de l'ordre.
Le 27 juillet dernier, c'est le maire d'une commune d'Isère qui a été brûlé par le feu d'artifice d'un jeune qu'il tentait de maîtriser. Ainsi, dans ces dernières semaines, dans plusieurs quartiers de Bordeaux, Paris ou de la région lyonnaise, à tel point que plusieurs élus demandent aujourd'hui une qualification pénale pour poursuivre les auteurs.
Bonjour Cédric Van Stevendel. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes le maire socialiste de Villeurbanne. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous faites partie de ces élus qui demandent le renforcement des sanctions pénales. Ces incidents à Villeurbanne sont fréquents. Ça touche combien de quartiers ?
Oui, après, ce que je veux juste préciser, c'est que Villeurbanne n'a pas été concerné par des tirs d'engins explosifs à destination des forces de l'ordre. Et c'est justement là où on a besoin d'un renforcement de l'arsenal législatif, parce que quand il y a un tir de mortier à destination des forces de l'ordre, bien sûr, cela est répréhensible. Par contre, quand il y a juste une utilisation récurrente toutes les nuits jusqu'à 3h du matin de ces engins, ça ne relève pas d'une sanction pénale et on ne peut pas, avec la police nationale et avec les offices policiers et judiciaires, intervenir sur les contrevenants. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on souhaite renforcer l'arsenal législatif, que ce soit sur la vente de ces produits, parce que bien sûr, toutes nos villes ont pris des arrêtés anti-vente dans les magasins physiques qui existent, mais par contre, on ne peut pas réglementer la vente de ces engins sur Internet et aujourd'hui, ce sont les filières qui sont utilisées pour se procurer ces engins autour d'une vingtaine d'euros.
Vous demandez donc le durcissement des sanctions pénales parce qu'effectivement aujourd'hui pour interpeller et sanctionner un individu, il faut que le tir puisse être qualifié de coup et blessure volontaire, de tentative d'homicide ou de mise en danger de la vie d'autrui. Qu'est-ce que vous demandez exactement ?
De dégradation de biens.
Qu'est-ce que vous demandez exactement ?
Non mais on demande d'avoir une réflexion, un, sur la question de la vente et deux, effectivement, sur la qualification d'un usage répété à destination, si vous voulez, de nuire profondément à la population. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à qualifier la nature des engins qui sont utilisés. C'est-à-dire que ce ne sont plus du tout des pétards ou des petits feux d'artifice, ce sont des engins qui sont extrêmement dangereux, un, pour les auteurs qui se mettent en danger eux-mêmes, et puis ensuite, effectivement, pour la population, si jamais elle était visée par des tirs de cette nature. Donc il y a certainement quelque chose à faire sur la catégorie de ces explosifs qui sont utilisés, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas réglementé.
Très concrètement, qu'est-ce qui se passe ? C'est toutes les nuits des explosions, énormément de bruit au pied des tours.
Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, depuis le 11 mai, il y a beaucoup de villes et de quartiers en France qui ont été concernés par une recrudescence de ces explosions. Généralement, ces explosions avaient plutôt lieu autour du 13 ou 14 juillet. C'était déjà désagréable, mais on va dire que c'était supportable. Là, ce qui n'est plus supportable, et ce qui ne l'était pas en tout cas aux alentours du 15 et 16 juillet, c'est aujourd'hui sur Villeurbanne, ça c'est des tirs ont plutôt largement diminué, mais ce qui n'était pas supportable, c'était la récurrence toutes les nuits de ces tirs incessants et de ces explosions incessantes pour les habitants, c'était insupportable. Et effectivement, nous étions désarmés avec la police nationale sur la possibilité d'intervenir auprès des contravenants parce que ça ne relevait pas d'une sanction pénale. Donc, on pouvait mettre des contraventions, mais les contraventions, ce n'est pas ce qui va régler la question. Donc, on était assez désarmés. Donc, c'est pour ça qu'on demande une évolution législative. Et puis, pour Villeurbanne en particulier, c'est venu aussi s'inscrire dans un climat particulier avec la réorganisation d'une partie du trafic de drogue pendant le confinement. Et moi, c'est pour ça que je demande à ce que le quartier du Tonkin à Villeurbanne soit classé quartier de reconquête républicaine pour qu'on ait aussi des effectifs supplémentaires pour intervenir sur l'ensemble des dysfonctionnements et les tirs de pétards venant s'inscrire dans un panel difficile. Ouais.
On entend votre appel et votre demande. Merci Cédric Van Stevendel, maire PS de Villeurbanne. Merci d'avoir été en direct dans le journal de 8h d'Europe 1.
Enfin, tout autre chose. On connaissait la tactique du gendarme popularisée par Bourvil. Voilà la tactique de la conductrice en excès de vitesse. Un gros excès de vitesse, une arrestation et un mensonge encore plus gros pour tenter de s'en sortir. Guillaume Bié, cette dame s'est carrément inventé une vie et pas n'importe laquelle. Sauf que voilà, ça n'a pas marché.
137 km/h au lieu de 80. Le radar est formel. Les gendarmes arrêtent aussitôt la conductrice qui souffle dans les kilomètres. Elle a plus de deux fois la limite autorisée. Et alors que son permis est en train de voler en éclats, l'automobiliste ne se démonte pas. Pour tenter d'échapper à la sanction, elle annonce aux gendarmes qu'elle est magistrate antiterroriste. Rien que ça, raconte l'adjudant Joël Thirier, qui commande la brigade de Vézin de Lévézou.
Elle s'est présentée comme juge antiterroriste au parquet antiterroriste de Paris, ensuite comme consultante auprès du parquet de Rodez, ensuite au fil des versions comme simple interprète au parquet de Rodez, et en fait elle était rien de tout cela. Mes collègues sur place ont effectué quelques vérifications, ont passé quelques coups de fil, et les enquêteurs se sont aperçus qu'elle avait inventé toute cette histoire. Je pense que de souvenir, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui se présente comme une magistrate antiterroriste. On n'est pas tombé dans le panneau. Enfin, mes gendarmes ne sont pas tombés dans le panneau, pas du tout. Hein. Il ne faut pas jouer avec les gendarmes, surtout ceux de l'Aveyron.
Résultat, permis suspendu et garde à vue pour usurpation de titre. Une fois reconnu son gros mensonge, la conductrice a été déférée devant une vraie magistrate du parquet de Rodez, qui l'a renvoyée en correctionnel, où elle sera jugée en novembre.
Voilà, faut pas jouer avec les gendarmes de l'Aveyron. L'histoire
surtout
du
pas
jour,
avec la
signé Guillaume Bié pour Europe 1.
Ouais, incroyable histoire. Merci, c'était le journal de Théo Manval. Prochain journal à 8h.